Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Ouvrons le débat que vous avez chaque mois pour traiter d'un sujet d'actualité. Et ce mois-ci, le sujet n'est pas vraiment d'actualité, il est de tout temps. La question que nous nous poserons ce mois-ci, c'est qu'est-ce que l'art sacré ? C'est un thème difficile à cerner, parce qu'en fait, nous sommes habitués à la présence d'œuvres d'art sacré dans nos églises, ainsi qu'à l'accueil de concerts de musique sacrée. Mais savons-nous exactement ce que signifie le sacré ? Quels sont les critères de choix pour admettre ces œuvres ? Quelles sont les conditions nécessaires pour produire une œuvre sacrée ? Qui peut devenir un artiste en art sacré ? Voilà les questions et encore bien d'autres que nous allons nous poser au cours de notre émission ce mois-ci. Et pour ce thème, nous avons donc autour de la table le père Roger Willem, prêtre mariste habitué de notre émission, le père Jean-Claude Pennetier, qui est prêtre orthodoxe, mais surtout pianiste de renommée internationale, et donc bien sûr habilité à nous parler de la musique sacrée, madame Annick Decroix, qui est conseiller pédagogique en art plastique, mais retraitée, et actuellement anime des groupes de peinture, ne veut pas dire enseignante, mais elle nous expliquera pourquoi, et monsieur Bruno Moisan, qui est professeur de musique et musicologue. Ce sera toutes des approches différentes de l'art sacré. Et pour cette première émission, je vous pose la question très simplement. Comment définiriez-vous le mot sacré ? Qu'est-ce qui est sacré ? Alors, je vais vous interroger chacun à votre tour. Je ne peux pas faire autrement. Père, qu'est pour vous, Père Roger ?
Il me semble qu'il y a cette notion de séparé, de différent. C'est-à-dire... Il y a des objets, il y a des signes, il y a des mots, il y a des mélodies qui sont différentes parce qu'il y a une inspiration qui les met à part et qui décrivent ce que est l'humanité dans ses bonheurs et dans ses détresses. Il y a une expression profonde qui fait que c'est sacré, la vie est sacrée. Elle s'exprime à travers des œuvres d'art. Et ces œuvres d'art sont l'expression d'hommes qui ont été inspirés par une vie intérieure ou bien par la contemplation de la beauté autour d'eux-mêmes. Je pense à ce témoignage de la beauté qui a été écrit par Jean-Marie Pelt quelques mois avant de mourir. Jean-Marie Pelt qui est un écologiste, qui admirait beaucoup la nature et qui disait que cette nature doit être exprimée à travers le pinceau, à travers l'archet du violon, à travers le doigté du piano, à travers ces œuvres-là, voilà. À travers ce manifeste pour la vie, la beauté du monde, il exprimait tout simplement cette invitation à sortir de soi, de l'admiration, pour ce qui est autour de soi et qui dit quelque chose de l'au-delà de ce que nous sommes.
Oui, très bien. Oui, c'est ce livre d'ailleurs qui m'a suggéré de faire cette émission parce qu'il me pose beaucoup de questions. Père Jean-Claude, le sacré, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, ce qui est sacré, je pense même pas à l'art sacré, mais à ce qui est sacré, c'est en effet ce qui est mis à part, ce qui est dans le sens propre, ce qui est sacrifié, ce qui est séparé pour être voué à notre relation avec ce qui transcende notre existence habituelle et ce qui est au-delà de notre psychologie, je dirais. Ce qui est sacré, c'est ce qui est saint, c'est donc ce qui est séparé dans le sens propre.
Est-ce qu'on dirait consacré aussi ?
On peut dire consacré, oui, bien sûr.
Donc c'est un mouvement qui part de l'humanité. C'est une décision humaine, on va consacrer un objet. C'est ma question centrale. D'où vient la distance ? Est-ce que c'est On va voir ça un peu plus loin. Est-ce que c'est l'humain qui met quelque chose à part ou c'est la transcendance qui sépare un objet ou... Voilà, je continue avec M. Mrazan, si vous pouvez répondre à ma question. Oui, alors qu'est-ce qui est sacré ?
Alors, bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit. Ce qui est, à mon avis, c'est une notion qui est quand même extrêmement compliquée, qui est extrêmement fuyante,
voilà.
Notamment aujourd'hui. Puisque, j'allais dire, les progrès de la sécularisation font que les séparations habituelles que l'on avait culturellement dans notre société occidentale entre le profane et le sacré, justement, sont devenues extrêmement fluides et assez compliquées. Alors, c'est assez pour moi, je reviendrai assez facilement quand même à quelque chose d'assez simple, qui est que je pense que le sacré, en fait, c'est penser... Alors, penser la notion, pas définir ce qu'est le sacré, mais essayer de le penser déjà, c'est peut-être à la fois... se dire que dans le sacré, il y a effectivement du social, c'est-à-dire il y a de la communauté humaine, c'est ce que dit Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Il a une approche matérialiste, positiviste, il se dit le sacré, qu'est-ce que l'essence de la vie religieuse ? Alors il dit, c'est du social, c'est-à-dire c'est en fait la communauté qui va créer des représentations qui vont à la fois lui permettre de se souder et de se penser elle-même. Alors après, il explique qu'il y a des objets, des rites, etc. Il y a aussi des sortes d'objets centraux autour desquels la communauté va s'unifier. Alors c'est là qu'il parle du totem, toutes ces choses-là. Alors éventuellement Dieu, pourquoi pas. Simplement, Raymond Aron, dans Les étapes de la pensée sociologique, quand il fait sa petite explication de Durkheim, avec ce sens extraordinaire qu'il avait de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, il dit, bah oui, mais à ce moment-là, c'est bien gentil, mais si le sacré... c'est simplement du social fabriqué par lui-même, à ce moment-là, c'est de l'idolâtrie. Donc à ce moment-là, ça ne va pas.
Bon. C'est bien là ma question.
C'est bien là. Et donc, à mon avis, je pense que penser le sacré, c'est penser deux choses en même temps. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est penser à la fois, effectivement, la dimension sociale du sacré, mais aussi le fait que le sacré, c'est à la fois le social et ce qui lui est radicalement étranger. C'est-à-dire ce qui est radicalement étranger à la société, ce qui est radicalement étranger au monde des hommes, ce qui est radicalement étranger au monde matériel et au monde de l'objet, à l'économique, à la rentabilité, à tout ça. Donc à ce moment-là, je pense que dans nos sociétés occidentales arrive à ce moment-là peut-être cette espèce d'événement incommensurable qui est l'irruption de ce qui est étranger dans l'humain et le social, qui est tout simplement l'éblouissement de la résurrection. Tout simplement.
Oui,
si on veut le penser... Si on se dit comment... on a les choses s'articulent, on a effectivement peut-être ça aussi. C'est-à-dire que cette chose-là arrive et nous questionne. Pourquoi
mais
pas
à l'origine, avant de parler du christianisme, il y avait déjà l'irruption de pierres sacrées, d'arbres sacrés.
Mais ça, c'est ce que dit Durkheim. Durkheim, il dit, Durkheim, étudiant les cultes mélanésiens, il dit, si on voit tout ça, c'est du matériel.
Ben,
si
pas forcément.
C'est du symbolisé.
Il parle aussi de théophanie. Il n'y a pas d'irruption du divin sous une forme
c'est là qu'elle a, c'est
primaire.
Là c'est là que se trouve justement la difficulté de penser, à mon avis, la chose.
Madame de Croix, je vous vois l'air perplexe. Rapprochez-vous.
Moi, ce qui me paraît important, surtout par les temps d'aujourd'hui... c'est cette quête. Alors, on a dit séparation, on a dit mise à part, on a dit notion fuyante, mais il y a toujours cette quête. Hein. Cette quête que, même si on est pris par le temps, par notre vie, il y a des moments où on dit « Ah, que c'est beau !»« Ah, que c'est beau !»
C'est ça qu'il faudra prendre.
Et c'est ce que je cherche un petit peu aussi. Hein. C'est cette présence de l'au-delà dans l'ici-bas. En tant que créature de Dieu... en tant que créé, tout ce qui est autour de moi qui m'émeut, qui me fait ressentir quelque chose, qui me fait être touchée, ça me parle de Dieu. Et ça me dit Dieu.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Oui, vous parliez de deux choses, Madame de Croix, sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà, ce que vous ressentiez, alors que je reviens à questionner le père Jean-Claude qui disait « pas quelque chose de psychique ». Est-ce que le ressenti psychologique ?
Psychologique.
Donc le ressenti, ça fait partie quand même du sacré.
Oui, mais c'est ce qui fait basculer du sacré au religieux.
D'accord. Et sur l'autre question que je voudrais revenir, c'est que Madame de Croix a dit « Ah, que c'est beau !» Quel est le rapport du beau et du sacré? Est-ce qu'il y en a besoin du beau pour que ça soit sacré? Est-ce que ça se... l'esthétique fait partie du sacré?
Alors, esthétique, c'est ce qui touche les sens. C'est ce qui va
m'esthésie, même... ouais, c'est voilà, le ressenti, hein. Justement.
Donc, j'ai un ressenti, et ce ressenti m'évoque la présence de Dieu. Et c'est ce cheminement que je vais faire pour aller à la rencontre de Dieu à travers le quotidien, dans le quotidien, qui va faire que autour de moi, je vais sentir cette notion de sacré qui, même si elle est au-delà de moi, elle est accessible.
Oui, le beau.
Je pense que le beau est un attribut divin.
Mmh,
et
tout à fait.
Et dans la Bible, je veux dire que dans son aspect Ancien Testament, autant ce qui est représentation est complètement banni, n'empêche que si on se reporte, par exemple, au tout dernier chapitre, les chapitres 35, 36, 37 et 38 du livre de l'Exode, on va voir que pour élaborer cette tente et cette arche, oui, d'alliance,
il y a des artistes inspirés.
Artisans et artistes, oui. Et on va mettre tout ce qui est de plus beau. Et je pense que Dieu perçu par nous dans toute son ampleur, si je veux dire, se manifeste aussi par la beauté.
Mais les artistes dont parle l'Exode, ils ont un charisme particulier. Dieu leur donne une part d'esprit saint.
Absolument.
Tout à fait particulière pour, oui, pour créer la beauté.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est tout à fait...
J'ai une citation. Je voudrais vous la lire parce que je trouve qu'elle est importante pour moi, là, ces jours-ci. Elle est de Benoît XVI. Quand il parle d'une œuvre d'art, il dit qu'elle est le fruit de la capacité créative de l'être humain qui s'interroge devant la réalité visible, s'efforce d'en découvrir le sens profond et de le communiquer à travers le langage des formes, des couleurs, des sons. L'art est capable d'exprimer et de rendre visible le besoin de l'homme d'aller au-delà de ce qui se voit. Il manifeste la soif et la recherche de l'infini. Bien plus, il est une porte ouverte vers l'infini, vers une beauté et une vérité qui vont au-delà du quotidien. Et une œuvre d'art peut ouvrir les yeux de l'esprit et du cœur en nous élevant vers Dieu.
Oui.
J'ai trouvé là, j'avais la réponse à tout. Enfin, il a dit ce que j'aurais...
Ah ben c'était un artiste, il est aussi pianiste. Hein, donc, voilà. Là, il a effectivement une compréhension de l'art. Mais ça me pose double question. L'artiste est quelqu'un qui est choisi, qui est une exception humaine? Ou est-ce que n'importe quel homme est artiste? Parce que là, l'exemple que donne le père Jean-Claude, ce sont vraiment... C'est presque un groupe social qui est choisi pour être artiste avec l'Esprit-Saint. Et alors voilà, tout le monde est-il artiste ou certains élus avec des capacités médiumniques ou des mystiques ou des...
Je pense qu'en tant que créature de Dieu, je porte en moi quelque chose de lui. Quelque chose
qui... Donc n'importe qui, tout le monde.
Tout le monde a ça. Hein, et c'est pour ça que tous ensemble, on est beaucoup plus proche de Dieu encore, puisqu'on va réunir toutes ces petites choses-là qui sont en nous pour faire un tout. Et je pense que c'est cette petite étincelle, ce petit don de Dieu qui est en moi, qui va se manifester. À un moment donné, je ressens ce besoin de chanter, de danser ou de peindre, et puis je vais me donner les outils pour le manifester, pour le réaliser.
Donc n'importe qui a ce don.
Je le pense.
Père Willem, vous pensez que tout le monde est artiste?
Peut le devenir.
Il me semble qu'il y a une notion très importante liée au sacré, c'est la mémoire. Toute communauté, tout peuple, toute organisation a besoin d'exister à la fois dans un passé et de se projeter dans l'avenir. et l'importance de la mémoire, les commémorations. Les Français sont en particulier avides de commémorations. Tout au long de l'année, il y a ces moments festifs où l'on se souvient, soit des vivants, soit des morts, des héros, des gens ordinaires. Et ces jours-ci, on se souvenait de la femme. L'importance de la femme dans nos sociétés et l'importance de lui donner un rôle qu'elle n'a toujours pas dans certaines sociétés, y compris notre société qui prétend être à la fine pointe du progrès humain. Alors c'est très important, cette référence au passé, la mémoire. D'ailleurs, le culte chrétien comprend justement en son centre la mémoire de celui qui a instauré une fraternité par ses paroles, par ses gestes, par le merveilleux, par le miracle. Il a instauré un autre type de rapport entre les hommes qu'on appelle fraternité. Cette fraternité doit se manifester, se concrétiser, se rendre visible simplement par un pain que l'on partage, une coupe que l'on se communique, et ça devient une communion. La communion, c'est pas recevoir ce morceau de pain ou cette coupe de vin. La communion, c'est en relation avec des hommes et des femmes qui m'entourent et avec lesquels je peux avoir un projet qui me lance dans l'avenir avec eux, un projet, par exemple, d'accueillir des migrants, un projet de vivre autrement les relations, ne pas être lié simplement au culte d'une manière passive, mais entrer dans un mouvement de participation réelle, d'avoir sa propre part d'initiative dans cette création. Cela me semble très important, l'importance de la mémoire, mais cette la mémoire de l'avenir. Voilà.
Oui, vous avez déjà mis le doigt sur ce qui est vraiment particulier du christianisme, mais je voudrais encore recentrer un peu sur les religieux en général, à même le pré-religieux. Monsieur Moisin.
Par rapport, il y a deux choses qui ont été évoquées il y a cinq minutes, très vite, et qui sont très compliquées. D'abord, le problème de la beauté.
Le beau.
Alors, est-ce que c'est le statut, c'est des questions esthétiques, en fait, c'est-à-dire le statut du laid en art, par exemple, etc. Bon, et ensuite, est-ce que tout le monde peut être artiste? Alors, c'est, à mon avis, par rapport au statut du laid en art, et est-ce qu'il y aurait une simple réduction au beau? Je pense quand même qu'à partir du moment où l'art renvoie à la totalité de la condition humaine, il ne se réduit pas forcément à la beauté pure. Déjà,
c'est le sacré.
Oui, et l'art sacré, à mon avis, je pense que ça n'est pas contradictoire non plus. Après tout, dans le mystère de l'incarnation, par exemple, le Christ crucifié n'est pas beau, à mon avis, au sens d'une beauté idéale de type Renaissance, par exemple. Simplement, il peut être aussi transfiguré. Et puis en même temps, je pense qu'on peut exprimer aussi dans l'incarnation, il y a aussi le fait d'avoir pris toute la condition humaine, y compris le péché. Enfin, vous voyez.
Ah oui,
donc je pense qu'on peut, esthétiquement, le statut du lait peut avoir aussi un retentissement sur la question de l'art sacré. La question tout le monde artiste, oh là, c'est effroyablement compliqué. On peut l'aborder de deux façons. Alors, il y a une façon un peu développée, mais là, on n'a pas le temps, qui est par, en fait, un philosophe analytique américain qui s'appelle Nelson Goodman. Donc, Nelson Goodman définit cinq symptômes. Il se dit, voilà, qu'est-ce qui différencie, en fait, mon trousseau de clés que je vais poser sur une table de quelque chose de véritablement artistique. Alors, il définit cinq symptômes, la densité syntaxique, la densité sémantique, oui, etc. On n'a pas le temps. Bon, il y a une autre façon, peut-être plus simple, un peu peut-être moins rigoureuse, mais de se poser la question de ce qu'est le génie artistique, c'est-à-dire d'aborder la question, est-ce que tout le monde est artiste, par justement l'exceptionnel. Et je pense que le génie artistique, c'est en fait, si on prend tous les grands artistes, Beethoven et aussi, je ne sais pas, Michel-Ange, etc., c'est deux choses. C'est à la fois voir ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire notamment voir dans son art, par exemple, ce que ne voit pas la majorité de ses collègues. Par exemple, qu'est-ce qui va différencier Beethoven de tous ses collègues nettement moins bons? C'est qu'il avait une vision et une oreille qui n'étaient pas celles de Dussek, de tous ceux de cette époque-là. Et en même temps, c'est avoir, et ça renvoie à la dimension artisanale de l'art, c'est-à-dire avoir les moyens techniques de le réaliser. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui caractérise aussi tous les grands génies artistiques, c'est qu'ils ont un savoir-faire artisanal au-dessus de la moyenne de leurs contemporains. Mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une rétroaction des deux. C'est-à-dire, à partir du moment où vous voyez ce que les autres ne voient pas, et c'est aussi valable pour les pianistes, les interprètes, etc., vous allez avoir à ce moment-là un métier. Il y a une rétroaction de la vision originale sur la façon, sur notre propre métier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va aussi potentialiser le fait de ne pas avoir le métier de tout le monde. Donc des résolutions de problèmes techniques exceptionnels, on voit ça chez Chopin par exemple, etc. Et en même temps, le fait, comme l'art c'est en même temps un accouchement, c'est-à-dire la métaphore la plus simple c'est celle du sculpteur, c'est-à-dire vous avez le bloc, et puis ce qui va différencier un sculpteur génial de celui qui ne l'est pas, c'est qu'il va faire les bons coups de ciseaux tout de suite, etc., donc le métier. Mais à ce moment-là, le savoir-faire technique, c'est ce qui permet aussi de rendre présent petit à petit par tâtonnement le fait d'avoir vu ce que les autres ne voient pas. Ouais. Et donc, je pense que, après, le fait tout le monde artiste ou pas, c'est dans la dialectique entre les deux. Par exemple, il y a des cas typiques de l'art enfantin, par exemple, et les enfants de 13 ans qui n'ont pas de métier artistique, qui font des dessins dans les camps de concentration, vont en fait, du fait des conditions particulières dans lesquelles ils sont, ressentir des choses, et même s'ils ont un moyen un peu inférieur de le réaliser, la densité de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont expérimenté va être tellement forte par rapport à la petitesse de leur métier que ça va nous parler artistiquement. Et à l'inverse, vous pouvez avoir aussi des gens qui ont des métiers artistiques phénoménaux, mais qui, ayant une imagination qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur du métier, peuvent être relativement décevants. Ça, ce sont tous les...
Oui, donc voilà. La capacité ne suffit pas.
Voilà. Enfin, moi, je vois les choses comme ça.
Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites là sur l'artiste voit ce que les autres ne voient pas. Mmh. Hein? Voilà, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Mais en même temps, ça me dit que on peut amener les autres à voir.
Eh oui, hein? Voilà. C'est la dimension pédagogique de l'art.
Donc voilà, on a tous en nous la possibilité de développer quelque chose.
Après, c'est se mettre en route. Hein. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mon beau n'est pas le tien. Et ça me semble aussi très important et à respecter. Je crois qu'une des premières choses que j'essaye de faire passer, là, quand j'ai ces rencontres de personnes qui viennent peindre avec moi, c'est de... Ils viennent pour apprendre à dessiner. Et j'ai dit non, on vient pour apprendre à regarder.
Oui, oui, voilà. C'est la première des choses.
Voilà, je crois que ça... Et petit à petit, alors, on va se rapprocher de... je vais essayer de rendre visible l'invisible.
Oui, c'est idéal. Et en même temps, il faut quand même constater qu'il y a des valeurs sociales qui apparaissent là-dedans.
Voilà. Et après, je vais
travers un filtre aussi.
Je vais me donner les moyens de rendre visible. Et là, c'est là que va intervenir le besoin de technique. Voilà.
Oui.
Mais c'est pas au départ.
C'est pas,
c'est pas le départ.
Non, je pense que l'artiste, il doit mettre sa technique au service de son intuition fondamentale, mais... En même temps, on ne peut pas séparer les deux, probablement. Encore que moi, je me souviens d'une question d'un professeur de dessin en début d'année qui avait montré une gravure d'un Dürer ou je ne sais quoi, extrêmement sophistiquée, et puis un bison de Lascaux ou une affaire comme ça, en posant la question « qu'est-ce qui est le plus beau ?» C'était le Lascaux ou la gravure extrêmement sophistiquée. Et tout le monde a dit, évidemment, c'est la gravure sophistiquée de Dürer qui est, et le professeur aussi. Mmh. Et moi, j'étais la seule, et je reste la seule, à dire, c'est évidemment Lascaux qui est le plus beau, parce qu'il y a une simplicité de traits et une condensation de ce qui a été vu. Mmh. Et pour moi, ça reste toujours le plus grand artiste, c'est celui qui fait le plus simple.
Ça, je suis pas sûr. Par contre, vous renvoyez à quelqu'un de passionnant dans l'histoire de la réflexion sur l'art sacré, et même dans l'art sacré, c'est le Père Couturier. Le Père Couturier, dans ses textes, réfléchit beaucoup sur... parce que c'était en fait quelqu'un dont le combat était de faire rentrer l'art abstrait dans l'art religieux catholique, si vous voulez, aussi, surtout en architecture et en peinture. La question de musique, il l'abordait assez peu. Et c'est vrai qu'il considère que la simplicité, le dépouillement est un des critères fondamentaux de l'art sacré, mais parce qu'en fait, lui, il se situe dans une position polémique par rapport à l'excès d'ornementation de ce qu'il appelle l'art byzantin, mais pas l'art byzantin de Byzance, mais le néo-byzantin de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qu'il considère comme étant l'or horreur absolue. Donc il a des pages absolument fabuleuses sur Sainte-Thérèse, sur Lisieux, sur ça. Mais après, je pense que non, la surabondance virtuose, par exemple, dans l'art, y compris l'art sacré, a aussi sa valeur, parce qu'à ce moment-là, il faudrait enlever tout l'art baroque.
Oui, c'est un peu ça que je pensais.
Donc, or...
Les pièces montées, c'est...
Oui,
c'est...
Ouais.
Mais est-ce encore sacré ?
C'est ça que je pose la question, parce qu'on est sur le sacré et pas sur l'artistique. Oui. Il y a le piège de l'art qui détourne du sacré.
Alors, je trouve que ce que l'on dit trahit notre difficulté
Absolument.
À cerner ce qu'est l'art sacré. Parce qu'immédiatement, on va vers l'art. Mmh. Et pour moi, il y a quand même... Et je ne mets même pas une hiérarchie, si j'ose dire. Mais il y a l'art sacré, il y a l'art religieux, et il y a l'art tout court. Quand Monsieur Bruno Moisan dit que le lait peut prendre sa place, c'est que dans l'art, pas dans l'art sacré, ça je ne pense pas, mais dans l'art en général, il y a un phénomène de transfiguration et que tout ce qui est humain dans tous ses aspects, par la puissance de la création artistique, peut être transfiguré. Et que, dans l'expression de sentiments ou de pensées qui n'ont rien de sainte en elles-mêmes, mais par leur transposition, peuvent devenir un lieu où ces émotions et ces pensées trouvent leur expression et donc une voie de guérison, je dirais. Il y a dans l'expression artistique de choses extrêmement dures, et on va dire même laides, qui, si elles sont exprimées avec un véritable talent, qu'est-ce qu'est le talent enquête, qu'est-ce qui n'est pas, ça c'est un autre problème, va les porter à un point où il peut y avoir communication, une guérison.
Mais pour revenir à la Bible, quand même, si je me rappelle, dans Isaïe 52, quelque chose comme ça, le serviteur souffrant, il est bien question de laideur à un moment donné.
Bien sûr.
Donc, il y a une laideur dans les chapitres de celui qui porte les péchés du monde qui est quand même sacrée. C'est là que laideur assumée dans le serviteur souffrant.
Peut-être que ça renvoie à cette partie sombre qui est en moi aussi.
C'est l'humain.
Voilà.
Et puis je pense que ça renvoie aussi à le sacré n'est pas étranger, y compris l'art, on va dire même religieux, voire même pourquoi pas liturgique, n'est de toute façon pas étranger aux grands invariants d'une époque. C'est vrai qu'on voit difficilement au XVIIe siècle arriver dans des impropères du Vendredi Saint, par exemple, des dissonances criardes du XXe siècle, parce qu'à ce moment-là, les canons de l'esthétique ne le justifient pas, mais on peut tout à fait envisager aujourd'hui, y compris dans des impropères du Vendredi Saint composés par un musicien, des dissonances absolument épouvantables, qu'on l'on trouverait aussi bien dans un film dans la musique d'un film d'épouvante, parce que
pour
tout simplement
il
est exprimé la déréliction du Vendredi Saint, où c'est tout à fait envisageable.
Malheureusement, nous arrivons déjà au terme de notre première partie et nous reprendrons donc pour la semaine prochaine ce thème du christianisme, l'art sacré chrétien. Donc je vous dis au revoir, chers auditeurs, merci à nos intervenants et à la prochaine fois.